Si la représentation de l'Allemagne devient à ce point ambivalente chez les intellectuels français libéraux, celle que beaucoup se font de la science allemande ne l'est pas moins. Ils prennent conscience que si le militarisme prussien, appuyé par les canons de Krupp, a gagné la guerre, c'est notamment grâce au rôle de la science allemande et de ses applications techniques, et qu'il faut donc réformer en France l'université en s'inspirant du modèle allemand. Cette idée qu'il fallait s'inspirer du modèle allemand avait un petit peu commencé à surgir dans les dernières années du Second Empire, et la fondation de l'École pratique des hautes études en 1868 s'en inspire en partie pour sa forme d'enseignement sous forme de séminaire. En même temps, se répand, en particulier sous la plume d'historiens français gagnés à l'idée des deux Allemagnes, l'idée que cette science, admirée pour ses avancées philosophiques, philologiques ou scientifiques, s'est mise avec la guerre au service exclusif d'un profit national fondé sur l'utilitarisme et sur un égoïsme d'État, et s'est donc perverti. Pourtant, les réalités vont prendre peu à peu le pas sur l'idéologie, car en ces dernières décennies du XIXe siècle, les besoins du développement scientifique incitent à une internationalisation de la science, ce qui suppose le rétablissement du dialogue scientifique entre les anciens belligérants. Sans m'étendre sur ce point, je noterai qu'Anne-Marie Descaillon montre bien dans son livre le rôle de relais qu'ont joué pour aider à renouer un tel dialogue des revues scientifiques des pays neutres, revues belges, revues suisses ou suédoises comme Acta Mathematica, dont elle a parlé. Elle montre également comment les traductions ont joué un rôle de médiation dans le rétablissement de ce dialogue, et ceci même dans une conjoncture encore très peu favorable. Elle a parlé de la traduction en France en 1883 des premiers travaux de Cantor, avec comme traducteur ou comme superviseur des mathématiciens français et souvent alsaciens et lorrains, il faut le publier, mais que ne pouvant être publié à ce moment en France, c'est bien à Stockholm qu'ils étaient parus, en français. Et ce sont encore des pays neutres, la Belgique et la Suisse, que Cantor envisagera d'emblée pour accueillir le congrès constituant qui doit permettre d'organiser durablement une coopération internationale des mathématiciens. Bon, Anna-Marie a rappelé qu'il avait préféré finalement Zurich où il avait plus de contacts. Et dans la préparation de ce congrès de 1897, dont il sera l'inspirateur et l'initiateur, Cantor démontrera un sens aigu de la diplomatie et des susceptibilités nationales et personnelles aménagées, et ce, y compris dans sa manière de se positionner dans le champ des relations franco-allemandes. Bon, Anne-Marie a rappelé que Cantor disait ne pas être allemand de naissance. Je reviens sur ce point, car j'ai été frappée par le soin mis par Cantor, s'adressant à ses collègues français, à se situer résolument en dehors des querelles franco-allemandes, sans doute pour avoir les coudées plus franches dans ses efforts internationalistes. Dans une lettre à Poincaré du 7 janvier 1896, c'est après avoir proposé que ce congrès constituant se tienne à l'automne 1897 à Bruxelles ou à Zurich, mais le premier congrès véritable proprement dit à Paris en 1900, que Cantor revient sur ses origines et en tire argument pour appuyer ses propositions. Il dit à Poincaré: « Vous savez bien que de naissance, je ne suis pas allemand, mais Saint-Pétersbourgeois. Mon défunt père était danois, venu dans son enfance de Copenhague à Saint-Pétersbourg. Ma mère, qui vit maintenant à Berlin, est Saint-Pétersbourgeoise. C'est pourquoi, dans notre affaire, aucun souci d'ordre national ne m'embarrasse, ne me retient. » Fin de citation. C'est donc en se définissant par son origine multinationale ou cosmopolite et surtout périphérique par rapport à l'Allemagne qu'il se légitime ici dans son rôle d'initiateur de congrès internationaux vis-à-vis de ses interlocuteurs français. Ce faisant, il passe sur un autre aspect de ses origines, la composante juive, parce qu'elle ne joue guère de rôle dans son autodéfinition religieuse et culturelle, ou bien par diplomatie, je me suis posé la question. Pourtant, cette origine juive, il vient de l'évoquer en écrivant à Paul Tannery, un jour avant d'avoir écrit à Poincaré, en présentant son père comme, je cite, « né à Copenhague de parents israélites qui appartenaient à la communauté juive portugaise de là-bas et était très vraisemblablement d'origine hispano-portugaise », fin de citation, j'ajoute donc, des juifs séfarades. Dans sa lettre à Poincaré, la marginalité revendiquée vis-à-vis de l'Allemagne permet également à Cantor d'envisager en fin diplomate l'association d'autres mathématiciens allemands à son entreprise internationale. Il continue ainsi. Cependant, je me suis convaincu que nous rallierons les collègues allemands à ce projet si nous veillons à ce qu'aucune faute ne soit commise lors de l'engagement des négociations et lors des discussions préparatoires. Et n'oublions pas que parmi ses collègues français, avec lesquels il traite pour l'organisation de ses congrès, deux sont des Lorrains, Charles Hermite et Henri Poincaré. Hermite provient vient de Dieuze, qui est alors en Lorraine annexée. Poincaré de Nancy. Quant à Paul Appel, qui sera dans les années 1920 le fondateur de la Cité internationale universitaire de Paris, où nous sommes réunis ce soir, et le recteur de l'Académie de Paris, c'est un Alsacien de Strasbourg. Tous trois, comme Cantor, agissent en médiateurs dans leur discipline des relations franco-allemandes, auxquelles ils attribuent un rôle central pour promouvoir une coopération internationale des mathématiciens, tirant à leur manière de la guerre de 1870 une leçon de paix. C'est aussi le cas de Charles-Ange Lézan et d'Émile Lemoine qu'Anne-Marie a évoqué. Notons que Appel et Poincaré défendront la cause dreyfusarde, ainsi d'ailleurs que Lézan. À la lecture de ce livre, on voit que Cantor a certes des motivations personnelles pour rechercher dans des congrès internationaux une reconnaissance de ses travaux qui, en Allemagne, lui est longtemps refusée par l'establishment universitaire, et surtout à Berlin. Mais on voit aussi que son action internationale correspond à ses convictions philosophiques et scientifiques profondes. Il en désigne en effet l'objectif du terme d'entente cordiale scientifique, à un moment où cette notion, lancé par Guizot sous la monarchie de Juillet, lorsqu'il œuvrait déjà un rapprochement franco-britannique, n'est pas encore devenu aussi populaire que lors de l'alliance du même nom qui sera conclue seulement en 1904. Cet objectif implique pour les scientifiques des différents pays de dépasser l'intériorisation des trois égoïsmes nationaux et d'établir un dialogue pacifique et des échanges permanents dans un climat de confiance mutuelle et de coopération bénéfique au progrès de la science. Et c'est d'abord avec son petit cercle de correspondants français, donc si l'on veut par une coopération franco-allemande à petite échelle, que Cantor entend lancer la préparation de ses congrès internationaux destinés à réaliser cet objectif. En cela aussi, il est largement en avance sur son époque, mais ce qu'il a semé continuera à germer dès que la conjoncture le permettra et les congrès internationaux des mathématiciens, interrompus par celle qui n'est encore que la Grande Guerre, reprendront dès 1920 après la mort de leur initiateur. Je vous remercie.